de santé 88.4. Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux de santé, votre magazine de prévention sur Radio Campus Rennes. Pour ce nouveau numéro, je suis allée à la rencontre de Claude Védeillé, chef de service et médecin psychiatre à l'Envol. L'Envol est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de service public. Dépendant du centre hospitalier Guillaume Régnier, au sein du pôle addiction précarité, il accueille des patients toxicomanes pour des cures de sevrage, des suivis de traitement de substitution et des bilans médicaux. Afin de bien comprendre le sujet, je lui ai demandé ce qu'est la toxicomanie.
Alors, il faut être clair, la toxicomanie s'inclut dans une nomination maintenant qui est l'addictologie. Qu'est-ce que c'est que l'addictologie ? Voilà la question. L'addictologie, c'est une dépendance par rapport à un produit ou un comportement, c'est-à-dire l'impossibilité d'arrêter ce comportement ou les prises de produits, même si les conséquences médicales, les conséquences sociales sont existantes et sont problématiques, mais il y a une continuité des prises ou des comportements qui font que la personne est en souffrance et en difficulté par rapport à ce produit ou ce comportement. Alors, ces comportements ou ces produits peuvent être divers. En général, on avait l'habitude d'appeler toxicomanie la prise de produits considérés comme illicites. L'alcoolisme, le rapport à l'alcool et le comportement répétitif par rapport à l'alcool, puisque c'est la formule et l'importance, c'est l'itération des prises de produits, est aussi un problème majeur. Nous avons aussi de plus en plus de problématiques addictives avec le jeu, avec les problématiques alimentaires, etc. Donc l'ensemble est vaste, mais ce qui définit en soi l'addiction, c'est cette dépendance à un comportement ou à un produit et l'impossibilité, l'itération d'abord de ce comportement, et puis les prises de produits, et puis l'impossibilité de s'arrêter.
Alors justement, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que commence la dépendance ?
C'est toujours extrêmement compliqué. C'est quand la personne réalise qu'elle ne peut plus arrêter ce comportement et que toute sa vie est centrée sur ce comportement. Et que ce qui fait la vie sociale, la vie affective est secondaire par rapport à cette itération du comportement qui est prédominant et prépondérant.
Alors, comment estimer sa consommation entre usage nocif et dépendance ?
L'usage nocif, c'est quand il y a des conséquences médicales, sociales à ces prises de produits, mais que la personne a plutôt encore la possibilité de s'abstenir de ce comportement répétitif et de ces prises de produits répétitives. La dépendance, elle peut être psychique, elle peut être physique, mais la dépendance, c'est l'impossibilité d'arrêter ce comportement. Bien évidemment que la frontière est ténue entre les deux et qu'il est extrêmement compliqué de déterminer les éléments qui font des prises de produits à risque ou des prises de produits problématiques et la dépendance. Il n'en demeure pas moins que il est important d'intervenir au plus tôt dans les comportements et dans les problématiques qui se posent et la personne doit consulter, rencontrer un soignant ou un thérapeute.
Quel public accueillez-vous ici à l'Envol ?
Le public est extrêmement diversifié. Vous seriez étonné des populations, des personnes que nous recevons. Il n'en demeure pas moins qu'en général, nous recevons des personnes jeunes qui ont des habitudes addictives. Mais aussi la question se pose du remplacement de l'addiction, c'est-à-dire que nous avons des personnes qui ont eu des problèmes, par exemple, avec les opioïdes, c'est-à-dire l'héroïne, et d'autres qui donc ont eu des problèmes avec la cocaïne et qui, au moment où dans la prise en charge, se révèlent présentant des difficultés avec l'alcool, par exemple, ou avec des problématiques de jeu autrement.
Est-ce que vous avez remarqué une évolution dans les âges ou le milieu social de vos patients ?
Ce qui me frappe, c'est que on a quand même, ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine-là, on a quand même un accroissement des problématiques addictives qui demeure inquiétante, qui est très inquiétant. Alors, il faut pas non plus dramatiser la chose, mais en l'occurrence, ce qui me pose problème en tant que soignant, c'est le rapport à l'alcool chez les populations jeunes.
Et vous, dans votre prise en charge, est-ce que vous avez évolué dans la façon de soigner, dans la façon de prendre en charge les personnes qui viennent vous voir ?
Absolument, parce que si on fait un retour en arrière, en 96, nous n'avions pas de traitement de substitution. Donc l'ensemble des thérapeutiques passaient par le sevrage. Vous comprenez bien que les traitements de substitution ont modifié nos prises en charge, ont impliqué peut-être une certaine fidélisation à la prise en charge des personnes que nous recevons. Et en l'occurrence aussi, s'est révélé dans les années, à la fin des années 80, une problématique majeure qui a été un bouleversement dans nos pratiques, qui est l'apparition du sida, en l'occurrence.
Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un traitement de substitution ?
Les traitements de substitution ne s'adressent qu'aux personnes qui sont dépendantes des opiacés, c'est-à-dire qui ont eu une addiction à des produits comme l'héroïne, la codéine ou d'autres produits de ce type. Donc ce n'est que pour ce type de personnes que les traitements de substitution doivent être mis en place. On ne peut pas mettre en place un traitement de substitution pour les opioïdes pour une personne qui a une dépendance au cannabis. Ce serait une bêtise majeure ou une erreur fondamentale. Donc les traitements de substitution sont un traitement et un moyen d'éviter que la personne ressente le manque, c'est-à-dire le manque physique. Cela dit, ça ne résout pas l'ensemble de ces problématiques psycho-affectives, ni l'ensemble de ces problématiques sociales. Donc autour des traitements de substitution est enclenché un processus de prise en charge à la fois psychologique, parfois psychiatrique et aussi social.
On se retrouve tout de suite après une pause musicale avec Spock Matombo et le titre « Let Them Talk ».
Girl, I don't know what you think is. Spock, what that kind of name?
Spock what?
It's not even...
De retour dans Enjeux de santé sur le 88.4 avec Claude Védeillé pour la suite de cet entretien consacré à l'Envol, centre de soins en addictologie.
N'est-ce pas un peu contradictoire justement de prendre des médicaments en cure alors qu'on est en désintoxication ?
Le terme désintoxication n'est pas valable, puisqu'effectivement vous donnez des médicaments qui ont l'effet des produits que la personne prenait. Cela dit, quand vous prescrivez des traitements de substitution, vous prescrivez un produit qui a une durée de vie relativement longue, qui permet à la personne de ne pas répéter ses prises de produits. L'héroïne, par exemple, vous êtes obligé de renouveler, grosso modo, toutes les 5 ou 6 heures, les prises de produits, avec un traitement comme la buprénorphine, c'est-à-dire le Subutex ou la méthadone, vous avez une possibilité de vie du produit sur 24 à 36 heures. Donc vous êtes en situation d'éviter par trop la répétition de prise de produit. Alors bon, il y a toujours le paradoxe effectivement de prescrire un traitement qui correspond à la problématique du sujet. Un traitement qui s'inscrit dans la durée. Il faut avoir en tête que c'est un traitement qui peut durer des années et des années, et qui parfois, pour un certain nombre d'entre eux, est un traitement de très longue durée. Il n'en demeure pas moins que, effectivement, quand on s'occupe de problématiques qui sont dans la durée, vous êtes conduit à prescrire des médicaments sur le long cours, et que ces prescriptions sur le long cours sont effectivement une thérapeutique.
La polytoxicomanie, qu'est-ce que c'est ?
Alors, la polytoxicomanie, c'est ce que nous rencontrons maintenant d'une façon très fréquente, ou même pratiquement unique. C'est des personnes qui prennent multiples produits psychotropes. Il faut avoir à l'esprit que, effectivement, il y a des produits illicites qui sont psychotropes et qui peuvent provoquer des addictions. Vous avez aussi des produits légaux, l'alcool en est un, le tabac en est un. Donc, l'ensemble de ces produits, effectivement, s'inscrivent. Quand vous prenez du tabac et de l'alcool, vous êtes dans une polytoxicomanie. Bon nombre de personnes sont dans une polytoxicomanie. Alors, je ne veux pas dire qu'ils sont tous en situation d'addiction ou de dépendance, encore à voir pour le tabac, mais quand même.
Alors, certaines drogues connaissent un vrai essor, comme la cocaïne ou la MDMA. Pourquoi ces produits sont-ils plus consommés ou testés à l'heure actuelle ?
Après, il y a des processus d'approvisionnement, des processus de mode. La cocaïne, effectivement, est largement utilisée. C'est un psychotrope qui provoque une activation du système nerveux central, donc qui permet, dans les moments festifs, d'être au top, en quelque sorte, d'être au top. Le MDMA a exactement à peu près les mêmes fonctions, sauf qu'il y a des dimensions un peu psychodysleptiques, c'est-à-dire avec des éléments hallucinogènes par moment. Voilà, c'est inscrit dans un moment pour un certain nombre festif. Pour d'autres, ça devient, si ça rencontre une problématique personnelle, ça devient une addiction. Je soulignerai aussi que bon nombre de personnes qui prennent de la cocaïne et qui sont en difficulté, puisque après la prise de cocaïne survient un moment de type dépressif avec des éléments un peu persécutifs, il arrive avec fréquence que ces personnes qui ont pris de la cocaïne prennent de l'héroïne pour descendre.
Pour en revenir à votre travail, comment se passe l'accueil d'un patient à l'envol ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un entretien au préalable avec la personne qui va être suivie, avec sa famille, son entourage ?
D'abord, c'est la personne qui vient. D'abord, c'est la personne qui vient, même si nous recevons des parents, c'est les parents qui viennent pour parler de leur fils ou de leur fille. Donc, nous recevons la personne en rendez-vous. S'il arrive ici sans avoir rendez-vous, il est reçu, il est entendu, et en fonction de la situation de la personne, nous prenons les dispositions nécessaires pour la prise en charge. C'est important d'avoir un accueil chaleureux, d'avoir un accueil proximal, pour permettre à la personne de revenir. C'est un peu une accroche aussi, c'est-à-dire on est dans l'accès aux soins, et c'est important de permettre à la personne de réaliser que ici il va être entendu, il va être reçu et que il pourra revenir. J'insiste sur l'importance d'une prise en charge qui est intégrée, c'est-à-dire qui est à la fois médicamenteuse, à la fois psychologique, parfois psychiatrique et aussi sociale. Cet ensemble-là, c'est les éléments qui font que la personne pourra évoluer. Alors après, elle se saisit ou pas des possibilités que nous offrons. Et il faut aussi savoir que la prise en charge est de long cours, que c'est un long parcours, et que parfois la personne a du mal, elle va reprendre des produits, mais c'est un élément dans un parcours de soins qui nous paraît évident et auquel nous prêtons attention, mais sans jugement moral ni de jugement de quelque sorte sur cette problématique de reprise de produit.
Merci docteur.
Merci.
C'était Enjeu de santé sur le 88.4. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les informations ainsi que le podcast de cette émission sur le www.radiocampusrennes.fr. Cette émission est réalisée en partenariat avec l'ARS et la région Bretagne, parce que risquer moins, c'est s'éclater plus.